Marie Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans notre émission Mare Nostrum, dont c'est aujourd'hui le
107e numéro.
Une fois de plus, je vous invite à partir à la découverte de la Méditerranée, ses pays, ses civilisations, ses sociétés, grâce à nos invités qui sont, vous le savez, des spécialistes dans de nombreux domaines, qui viennent nous parler de leurs travaux. Aujourd'hui, notre magazine va être consacré à cette population iranienne très particulière, qui habite au nord du pays et au bord de la mer Caspienne, et dont on a l'impression qu'elle ignore complètement ce grand espace maritime de presque 380 000 km². Ça représente à peu près les deux tiers de la superficie de la France, je crois, grosso modo, et dont les dimensions sont 1000 km du nord au sud et 450 de l'est à l'ouest. Ça fait quand même... C'est une véritable mer. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, c'est vrai que ça peut poser question que cette population là, à proximité ne s'intéresse pas du tout à la mer. Et on va en parler donc avec Christian Bromberger, qui est notre invité. Bonjour Christian.
Bonjour.
Vous êtes bien sûr une nouvelle fois notre invité. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Vous êtes, je rappelle, professeur émérite d'ethnologie à l'IDEMEC, qui est un laboratoire que vous avez fondé à la MSH. L'IDEMEC, c'est donc l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative. Vous êtes donc le fondateur, comme je viens de le dire. Et ce laboratoire continue, bien sûr, à travailler. Il est à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, avec qui notre émission est partenaire à Aix-Marseille Université. Alors, vous êtes aussi membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez de nombreuses fonctions administratives, scientifiques, dans des institutions un peu partout, universitaires, des musées. Vous travaillez dans diverses revues scientifiques en France et à l'étranger. Et il faut dire que, comme vous nous parlez assez souvent de l'Iran, c'est parce que vous y avez séjourné en tant que directeur de l'Institut français de recherche en Iran.
Oui, c'est exact.
Vous y êtes resté 2-3 ans, je crois.
Oui, de 2006 à 2008. Oui.
Voilà. Hein, donc, vous avez eu le temps d'investiguer dans des tas de directions qui font notre miel dans cette émission. Alors, donc, je vais commencer à vous interroger pour nous donner quelques informations sur cette étrange population qui tourne le dos à cet immense espace maritime. Il y a cinq pays riverains. Bien sûr, les autres s'y intéressent, à l'espace maritime. Et les Iraniens de cette région, pas beaucoup. Alors, on va voir un peu quel domaine cette population, je vais dire, évite, en tout cas, ne s'intéresse pas. Et on va commencer peut-être par la pêche. Alors, la pêche, ça commence avec les relations avec les Russes, je crois.
Avec les Russes, oui. Et dès la fin du 19e siècle, c'est un arméno-russe qui a la concession sur la pêche dans la Caspienne. Et puis ensuite, donc, c'est quelque chose qui est un accord qui est fait entre l'Empire iranien et d'autre part les Soviétiques. Et puis ensuite, jusqu'en 1953, ce sont les Soviétiques eux-mêmes qui ont en charge la pêche des poissons qui sont haram. Poissons haram, c'est quoi? C'est des poissons qui sont sans écailles. Et vous savez qu'un des poissons qui se trouve dans la Caspienne, c'est l'esturgeon. L'esturgeon qui est particulièrement prisé pour son caviar. Mais c'est un poisson sans écailles. Alors, l'Iran est chiite. Et le chiisme a repris ce qui était le dogme dans la Bible, c'est-à-dire que les poissons sans écailles, on ne doit pas les manger et on ne doit pas les toucher. Donc c'est impur. Mais pas pour les Soviétiques, ni pour les Russes, bien évidemment, ni pour les Européens, ni pour les Américains. Ce qui fait que 95% de cette population d'esturgeons était exportée ici ou là vers les États-Unis, vers la Russie ou vers l'Europe. Et Donc les Russes se chargeaient, les Soviétiques se chargeaient de l'exploitation de cette ressource, jusqu'en 1953, où une société iranienne de pêche est créée. Et à ce moment-là, donc, ce sont les Iraniens eux-mêmes qui s'occupent de ce poisson très particulier qui est l'esturgeon, poisson sans écailles.
Alors problème quand même.
Problème, mais pas tellement problème jusqu'à la révolution islamique, c'est-à-dire jusqu'en 1979. Parce qu'à ce moment-là, ce sont surtout des pêcheurs qui viennent de Bakou, de Transcaucasie, et donc qui n'ont pas le même poids religieux sur le dos que les pêcheurs à partir de 1979. Et donc, à ce moment-là, problème en 1979, que faire de ces poissons qui sont haram, donc qui sont impurs. Alors, Khomeini avait déjà donné son avis là-dessus quelques années auparavant en disant que c'était interdit, des poissons sans écailles. Et puis, à vrai dire, j'avais vu à ce moment-là, moi, l'ayatollah Hassan Barsh, enfin je l'ai vu plus tard, qui m'a raconté un petit peu comment ça s'était passé. Lui-même était persuadé que c'était un coup des Russes et des Soviétiques d'avoir interdit l'esturgeon dans la mesure où c'était quelque chose qui rapportait de l'argent et donc ça avait été un complot impérialiste que de priver les Iraniens de cette ressource. Et donc il avait réuni une commission, il y avait eu plusieurs commissions d'ailleurs qui avaient été réunies à ce sujet, et lors de cette commission, les savants qui avaient été réunis avaient découvert quelques écailles sur le lobe supérieur de l'appendice caudal asymétrique de l'esturgeon, ce qui fait qu'en définitive, l'esturgeon était devenu halal, c'est-à-dire autorisé, permis. Et donc, on avait vu à ce moment-là, à la télévision, en effet, des mollahs, pas s'empiffrer, mais enfin, manger du caviar, dans la mesure où c'était devenu halal, et ça avait été confirmé par Khomeini. Mais il y avait quand même quelques ayatollahs plus conservateurs qui tiquaient beaucoup, et je pense en particulier à Golpayegani, qui était un des ayatollahs qui n'était pas du tout d'accord avec cette décision. Mais enfin, bref, c'était devenu halal. Et à partir de ce moment-là, donc, les Iraniens ont pu pêcher eux-mêmes l'esturgeon, quelle que fût leur origine. Et donc, il y avait en effet plusieurs saïdgas, c'est-à-dire plusieurs postes le long de la mer Caspienne où l'on pouvait pêcher l'esturgeon. Et donc, à ce moment-là, d'ailleurs, l'importer, parce que les Iraniens eux-mêmes, quelles que fussent les déclarations des ayatollahs, n'avaient pas un goût particulier pour l'esturgeon, et donc cet esturgeon est demeuré exporté en une très grande quantité, je vous parlais de 95%, vers l'extérieur, vers la Russie, vers l'Europe, vers les États-Unis. Et puis alors, évidemment, en 2008, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une interdiction générale pêche de l'esturgeon et qui est prise à ce moment-là par tous les États riverains, dans la mesure où, parce qu'il y a eu une pêche un peu trop intensive, à ce moment-là, ben, évidemment, l'esturgeon n'est plus pêchable, dans la mesure où il faut lui laisser le temps de se régénérer pour qu'il devienne pêchable. Mais alors, il y avait aussi d'autres poissons qui étaient soit du temps des Soviétiques pêchés par les Soviétiques, soit au contraire pêchés par les pêcheurs locaux. Parce que c'est vrai que dans la nourriture locale, il y a quand même un certain goût du poisson. Mais ce sont souvent des poissons qui viennent des marécages qui se trouvent dans la région, c'est-à-dire des carpes ou bien des brèmes ou bref, ou des souffles, comment dit-on en français?
Ah, je ne peux pas vous aider. Oui,
non, je ne me rappelle plus exactement le terme. Mais bref, ces poissons sont consommés par les Iraniens du Nord, par les Gilanais et par les Taléchis. Et donc, ils font du polo avec, c'est-à-dire du riz avec ces poissons. Et donc, c'est quelque chose qui est consommé localement. Et de même d'ailleurs que la tête de ces poissons, qui est sucée par les gens, puisqu'il paraît que ça a des propriétés particulières et que notamment ça éveille l'intelligence. Et donc, ce qui fait d'ailleurs que ces populations du nord de l'Iran ont pour sobriquet les Kalle Mayhor, c'est-à-dire les mangeurs de têtes de poissons, ce qui fait qu'ils sont particulièrement dénigrés par les populations d'Iran central et d'Iran méridional.
Donc finalement, ils se sont convertis à la pêche.
Alors, ils se sont convertis à la pêche, mais néanmoins, ce sont, attention, ceux qui pêchent, ce ne sont pas les riverains, parce que moi, mon terrain, c'était juste à côté de la mer, et à vrai dire, cette mer était parfaitement ignorée. Ceux qui pêchent, ce sont les Turcs des montagnes, qui migrent l'hiver pour pêcher dans la mer Caspienne et qui ensuite retournent dans leur village en haut de l'Elbourz. Et là, ils s'adonnent à la culture du blé et à la moisson du blé qui intervient en été. Et donc, c'est vrai qu'il y a une division ethnique du travail. Pour les gens du Gilan et du Talech, donc les gens de la plaine, c'est la riziculture. Autrefois, c'était la sériciculture. Et pour les montagnards, c'est la culture du blé, mais avec cette pêche complémentaire. Et ce qui fait d'ailleurs que pour la pêche à l'esturgeon, c'est de moins en moins le cas, mais c'était surtout des Turcs qui venaient des montagnes et non pas les populations riveraines.
Oui, donc c'est vraiment, les populations riveraines sont vraiment en dehors du coup. Là.
En dehors du coup, ils tournent le dos à la mer et c'est quelque chose, si vous voulez, qui est très frappant parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une population de marins ou une population de pêcheurs, pas du tout. C'est une population qui est tournée vers la culture ou l'élevage des vers à soie jadis, ou naguère, et surtout vers la riziculture dans les plaines verdoyantes du nord de l'Iran, puisque c'est la seule région humide véritablement, avec l'Elbourz qui descend vers les plaines, et donc des plaines qui sont irriguées et où on cultive le riz, qui est particulièrement prisé en Iran.
Et donc, ça veut dire que l'Iran n'exporte plus de caviar, etc. Oui, quand même,
alors,
malgré
il exporte,
l'interdiction.
Mais cette interdiction a été levée.
Ah, elle a été levée, d'accord.
Elle a été levée puisque donc on a découvert des écailles sur le lobe supérieur de la queue des esturgeons. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, ils peuvent commercer le caviar. Mais ce sont toujours ces Turcs qui viennent, enfin ces Turcs, ces Azeri, les Turcs d'Azerbaïdjan iranien, hein, qui oui. Descendent vers la mer Caspienne pendant la saison de pêche à l'esturgeon, qui s'adonnent à cette activité, alors que les Gilanais eux-mêmes, ou les Taléchis de la plaine, voient ça avec un certain dégoût même, et puis c'est pas une activité qui leur revient.
C'est ça, c'est pas leur affaire.
Hein. C'est pas leur affaire.
Et donc les Russes n'y sont plus là.
Russes n'y sont plus.
D'accord.
Les Russes n'y sont plus. Donc. Et donc d'ailleurs, les relations avec la Russie se sont complètement coupées dans les années 30, à partir du moment où l'Iran est passé dans le bloc occidental. Et ouais. Donc là, il y a eu véritablement une frontière qui s'est durcie entre la Russie et l'Iran.
Alors, je vais vous proposer une virgule musicale. Alors, j'ai trouvé... Il y a toute une famille de musiciens. Donc, il y a d'abord un ensemble. Ensuite, il y a un percussionniste. Et puis, il y a également une chanteuse qui porte le même nom. Alors, vous allez peut-être m'éclairer. C'est Yahya Zadeh. Ça vous dit quelque chose ?
Yahya Zadeh, non, ça ne me dit rien, mais je ne suis pas spécialiste de musique. Je peux vous dire simplement que c'est le fils de Yahya. Mais...
Voilà. Alors, on va commencer donc par l'ensemble, qui s'appelle Ensemble Yahya Zadeh, qui joue donc la musique traditionnelle de la Caspienne, précisément. Alors, belle musique, donc, de la Caspienne. Alors, deuxième élément, justement, des relations entre cette population iranienne de la région de la mer Caspienne avec la mer, le transport maritime.
Oui.
Oui, dans des conditions difficiles.
Dans des conditions difficiles. D'ailleurs, si vous voulez, le premier témoignage qu'on a véritablement de cette difficulté nous vient de Nikitine, qui était un voyageur du XVe siècle, qui avait écrit « Rogenie Zatri Moria », donc le voyage dans les trois mers, et qui nous dit que véritablement la traversée de la Caspienne est quelque chose d'épouvantable. Et c'est confirmé d'ailleurs par un des souverains Qadjar au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, Nasser Eddin Shah, qui pour aller en Europe passe par la Caspienne. Et qui passe son temps à vomir, il raconte ça dans ses mémoires, dans la mesure où, véritablement, il y a des tempêtes sans arrêt dans la Caspienne. Et il est vrai que même, d'ailleurs, pour se baigner de façon plus contemporaine, on est frappé par les vagues qui peuvent exister et par le fait qu'il ne s'agit pas du tout d'une mer d'huile comme ce que l'on peut connaître dans d'autres régions du monde et dans la région qui nous plaît particulièrement, la Méditerranée.
Oui, c'est ça, c'est vraiment très très curieux. Hein. Il y a des conditions climatiques particulières, certainement.
Oui, il y a des vents particuliers. Voilà, oui. Il y a notamment ce vent, le Dashteva, là, qui est particulièrement redouté sur les rives de la Caspienne. Et c'est vrai que les conditions de transport sur la Caspienne ne sont pas idéales, loin de là.
Et est-ce que le transport est quand même développé? Est-ce qu'il y a des échanges?
Alors, il n'y a plus du tout d'échanges, mais il a été développé. Il a été développé au XIXe siècle, et notamment à partir du moment où où les bateaux ont pu fonctionner au diesel. Ça a été, notamment à ce moment-là, des compagnies de navigation comme Caucase et Mercure, qui transportaient les passagers de Bakou vers le nord de l'Iran, ou bien encore aussi tous ces bateaux qui arrivaient à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, chargés de pétrole, parce qu'il faut bien voir que le pétrole, le premier endroit où il a été découvert, c'est du côté de Bakou, précisément en Azerbaïdjan, bien avant qu'il ne soit découvert dans le sud de l'Iran, dans le sud-ouest de l'Iran. Il fallait amener ce pétrole. C'était d'ailleurs, à ce moment-là, les frères Nobel qui s'en chargeaient. Donc, vous voyez, Nobel, pour nous, ça connote le prix Nobel, mais il y avait un frère Nobel qui était là.
Qui faisait des affaires.
Et qui faisait des affaires, et qui donc faisait venir ce pétrole vers l'Iran. Et ce qu'on voit d'ailleurs dans les écrits et les photos des témoignages au début du XXe siècle, ce sont ces théories, ces convois de chameaux chargés de sacs, enfin qui étaient faits pas en plastique, mais en cuir, et qui transportait à ce moment-là le pétrole, cette denrée, vers le centre de l'Iran. Et donc, on voit ces convois de chameaux, notamment dans toute une série de livres de souvenirs. Et c'est tout à fait frappant de voir à quel point le commerce, à ce moment-là, sur la Caspienne, était quelque chose de très développé. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu des tensions diplomatiques, il y a eu une fermeture de ce commerce, mais qui était très développé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Et c'était pour une autre époque plus ancienne, c'était un morceau de la route de la soie, là.
Non, pas vraiment.
Non, c'était simplement une route de l'Asie centrale vers les régions du Moyen-Orient, de la Méditerranée.
De la Russie vers... La Russie. Et alors, bon, il y avait aussi une exportation à partir du Guilan, parce que le Guilan était producteur à ce moment-là, donc le Guilan, c'est une des provinces qui longe la mer Caspienne, était producteur surtout de soie. Bien avant le riz, qui est aujourd'hui la culture prédominante dans la région, c'était la soie. Et alors, cette soie, bon, il y a un problème. Elle était dévidée sur des dévidoirs qui étaient beaucoup trop grands pour les industriels lyonnais ou milanais vers qui allait cette soie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Enfin, à la fin du 19e siècle surtout, puisque après, il y a eu aussi la crise de la pébrine au Guilan comme ailleurs. Et donc, ce qu'ils avaient entrepris de faire, après avoir créé toute une série d'industries sur place pour dévider la soie, c'est plutôt d'importer les cocons secs. Les cocons secs, et alors, évidemment, pour transporter ces cocons secs, il y avait la Caspienne, il y avait aussi, donc, ensuite la mer Noire, et puis la Méditerranée, donc, et puis ensuite, ces cocons secs étaient débarqués à Marseille, transportés à Lyon, enfin, etc., etc.
Voilà,
donc, il y avait véritablement route, une route compliquée.
C'était une route de la soie, mais c'est pas
une
celle...
Une route de la soie, mais pas celle à laquelle on pense généralement. Et donc, ça aussi, ça a été quelque chose, si vous voulez, qui était important. Alors, il y avait évidemment, bon, je vous parlais du pétrole qui venait de Russie, il y avait aussi des samovars qui arrivaient, et puis alors de l'autre côté, et puis il y avait aussi du thé qui arrivait, parce que le thé se répand à la fin au 19e siècle en Iran, alors qu'auparavant on buvait du café. D'ailleurs, ce qu'on appelle les maisons de thé, on dit toujours en persan « khaverhane », c'est-à-dire « maison de café ». Le mot a continué à exister. Et donc, le thé, lui, venait de Russie, il venait des Indes, d'Inde, à travers la Russie, et la Russie le redistribuait en Iran, ce qui fait que là aussi, il y avait donc un commerce, si vous voulez, qui était important sur la Caspienne, avec ses exportations de thé de la Russie vers l'Iran. Donc vous voyez, il y avait quand même une intense activité maritime, et puis en plus, il y avait un commerce plus local sur les rives de la Caspienne, mais un commerce qui était assuré par les Turkmènes, qui se trouvaient à l'est de la Caspienne, les Turkmènes donc étant des nomades agro-pasteurs, pasteurs plutôt, mais là dont l'excédent de la population pastorale était devenu marinier ou marin sur la Caspienne, c'était les Deryanavar, les maîtres de la mer, les marins véritablement, qui transportaient à ce moment-là, donc soit qui faisaient un petit commerce avec Bakou, soit qui faisaient un commerce le long des rives du cabotage. Mais ce cabotage encore n'était pas effectué par les gens de la Caspienne eux-mêmes, sinon à l'est de la Caspienne. Et donc, d'ailleurs, moi, je me rappelle de vieux marins du Guilan qui débarquaient à ce moment-là ce qu'il y avait sur les navires turkmènes et qui me disaient, oui, on débarquait ça parce que, vous savez, l'eau est peu profonde et donc il fallait véritablement débarquer cela avec sur des bateaux à fond plat pour les amener vers les rives de la Caspienne. Et les vieux marins du Guilan me disaient, oh là là, nous, à la rigueur, on faisait ça, mais on n'allait jamais s'aventurer sur la Caspienne elle-même parce qu'à ce moment-là, il y avait trop d'accidents et puis c'était trop tempétueux pour nous.
Parce que actuellement, là, c'est un peu cette route, là, c'est un peu la route qui est en train d'essayer de mettre en place du pétrole qui va passer par la Méditerranée, donc qui passe par Bakou, par la Turquie, par la Méditerranée pour venir vers l'Occident, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans notre actualité, les problèmes gaziers et pétroliers.
Mais alors, si vous voulez, du côté de l'Iran et de ce qui revient à l'Iran depuis le partage de la mer entre ces cinq nations qu'il aborde, ce qui revient à l'Iran n'est pas du tout à très peu de ressources en pétrole.
Ouais.
Ce qui fait que ce n'est pas quelque chose de très intéressant pour eux. Contrairement à ce qui se passe plus au nord, où le Kazakhstan et la Russie et l'Azerbaïdjan sont intéressés par ce qui se passe plus au nord.
Absolument,
en matière de ressources pétrolières.
On fait une deuxième pause musicale, donc suite de la famille Yahyazadeh, avec un percussionniste très 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 chouette que j'ai beaucoup apprécié. Donc je peux pas vous dire le nom de ça, le nom de son morceau, mais c'est très très joli. Alors maintenant, troisième élément justement de cette population du Gilan, l'ignorance par rapport à cette mer. Pour quelle raison il y a ce désintérêt, cette défiance à l'égard de la mer? Est-ce qu'il y a des raisons religieuses, techniques, ethniques? Voilà, qu'est-ce
alors,
qu'on peut
écoutez,
dire
c'est un problème assez délicat. Bon, il y a un grand géographe, historien qui est Xavier de Planolle, qui nous disait que si cette mer était russe, c'est parce que, en définitive, les musulmans n'ont jamais apprécié la mer. Et alors, je lui faisais remarquer que les Ottomans aimaient particulièrement la mer, mais me faisait-il remarquer à son tour le vocabulaire maritime et des bateaux a été un vocabulaire importé en turc par les Ottomans, et non pas quelque chose qui vint spécifiquement des Turcs eux-mêmes. De même, d'ailleurs, les inventions les plus importantes en matière de vie maritime, comme le gouvernail, etc., ont été des inventions occidentales. D'ailleurs, ce qui me frappait aussi, c'était de voir comment, par exemple, le mât de ce bateau des Turkmènes, dont je vous parlais tout à l'heure, ce mât s'appelle topsail. Alors j'ai recherché un peu d'où venait ce mot. Il vient du néerlandais.
Donc, drôle de voyage.
Donc drôle de voyage. Et en fait, c'est vrai que il y a une sorte de répulsion pour la mer côté musulman. Et il y a un proverbe, si vous voulez, qui le dit très bien, dans la mesure où la mer, c'est pour les chrétiens, et le sol, c'est pour les musulmans, la terre, c'est pour les musulmans. Alors, c'est vrai qu'il y a ça, sans doute. Il y a aussi, au Guilan, ces activités qui étaient particulièrement prestigieuses, à savoir la sériciculture, qui alimentait les grands centres d'industrie de la soie en Occident, avant que le Japon et la Chine prennent le relais. Et puis, il y avait aussi cette division ethnique du travail, ce qui fait que les Guilanais s'occupaient de la soie puis du riz, les Galèches et les Talèches, qui sont les populations plus montagnardes, de l'élevage ovin, et puis les Turcs, eux, les Azéris, s'occupaient donc de la pêche et puis d'autre part également la culture des cultures sèches qu'il y avait sur leur territoire. Bref, une division ethnique du travail qui était forte, plus une orientation des Guilanais vers le sud où se trouvait la capitale, Téhéran. C'est de là que, Téhéran, Ispahan auparavant, c'est de là que venaient véritablement les idées, le pouvoir politique, etc. Donc, c'est vrai que cette explication par les musulmans rétifs à l'espace maritime me convainc un petit peu, pas totalement, la division ethnique du travail aussi un petit peu, et puis l'attraction vers le sud aussi un petit peu. Bon, tous ces un petit peu font qu'en définitive, on peut essayer de comprendre pourquoi les Guilanais ne se sont pas intéressés à la mer. Alors c'est un petit peu différent aujourd'hui, dans la mesure où il faut bien manger, il faut bien avoir des ressources, et donc les Guilanais, à ce moment-là, vont s'associer aux coopératives de pêcheurs sur les bords de la Caspienne. Ça arrive de plus en plus fréquemment, alors qu'auparavant, c'était véritablement une spécialité turque, et aussi bien d'ailleurs au Mazandéran, qui est la province voisine à l'est, où c'était aussi des Turcs et des Turkmènes qui s'occupaient de pêche et non pas les populations riveraines.
Et est-ce que le partage, parce que ça a duré longtemps, le partage de la mer Caspienne entre les pays riverains, est-ce que ça a changé quelque chose ?
Écoutez, non, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose dans la mesure où, ça a été évidemment pour les Iraniens, ça a été mal perçu dans la mesure où, au lieu de se partager cette mer avec les Russes, il fallait désormais la partager entre cinq États. C'était beaucoup plus délicat. Mais à vrai dire, ça n'a pas changé grand-chose dans la mesure où les rives de la Caspienne, maintenant, c'est surtout un espace de villégiature pour les gens de Téhéran.
Oui,
c'est ça. Donc,
c'est pas... Ça n'a pas changé quelque chose dans la répartition
Non. Ça a changé un petit peu quelque chose, si vous voulez, dans la division ethnique du travail, dans la mesure où des Guilanais se sont mis à pêcher, dans la mesure où ça leur rapportait un petit peu d'argent et où la vie est assez difficile, notamment depuis la révolution islamique.
Oui, parce que je crois qu'ils ont des relations avec la capitale qui ne sont pas toujours...
Oui, qui ne sont pas simples dans la mesure où, d'une part... leur espace est devenu un espace de villégiature essentiellement, et où d'autre part ils sont un petit peu méprisés par les populations urbaines du sud de l'Iran, enfin du sud, du centre et du sud de l'Iran, parce que ce sont des mangeurs de têtes de poisson. Puis il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur le fait que c'est vrai qu'au Guilan, qui a été une zone quand même qui a été très vite... En relation avec l'Occident, je vous parlais de la sériciculture tout à l'heure, le statut des femmes est un petit peu différent. Alors, est-ce que ça tient à ces relations avec l'Occident, ou bien est-ce que ça tient à quelque chose de différent, et notamment à ces cultures qui se sont développées dans le nord de l'Iran, où les femmes travaillent dans les champs, où il y avait aussi dans les industries séricicoles qui étaient établies par les Lyonnais ou par les Milanais, et où les femmes travaillaient. Donc il y avait un travail féminin au début du XXe siècle qui était à l'extérieur de la maison. Et donc tous ces facteurs ont fait que le statut des femmes est sensiblement différent au Gilan et dans le reste de l'Iran. Autant vous dire que c'est un sujet de plaisanterie particulier dans l'Iran intérieur, dans la mesure où on se moque des Gilanais et des femmes gilanaises en particulier, qui ont des mœurs très particulières. Alors, on vous laisse imaginer les blagues auxquelles ça peut ça donner lieu.
Oui, donc finalement, ils tournent un peu le dos à la mer, et ils tournent aussi un peu le dos du côté de la capitale, quoi, du côté.
Bah alors, si vous voulez,
c'est une population isolée, un peu.
C'est
finalement
une population isolée, surtout qui n'a été intégrée dans l'Empire iranien qu'au XVIe siècle.
Oui, c'est
parce qu'il y a cette barrière de l'Elbourz, donc de la montagne et d'une montagne infranchissable, qui fait que véritablement il y a eu là, dans cette région, une continuité de folklorique même, qui a été quelque chose d'assez fort.
Mmh. Oui, puisque je vois, ne serait-ce que par les musiques que je propose, on voit bien qu'on a des musiques qui sont très, très, très particulières par rapport au reste de l'Iran.
Enfin, oui.
Moi, j'ai vu ce que j'ai entendu, hein, il me semblait que c'était assez
différent. Oui, il y a des différences. Moi, je me rappelle, je ne suis pas du tout ethnomusicologue, mais je me rappelle en effet qu'il y avait un certain nombre d'inventaires des musiques du nord de l'Iran qui tranchaient avec
le reste. Oui, absolument. Oui, donc ils sont vraiment un peu particuliers, hein, dans ces relations avec leur environnement. Alors, on va poursuivre avec un autre questionnement concernant les relations entre les riverains. Et en particulier ces relations entre les hommes, entre les gens, entre eux, par rapport donc les voyages, les pèlerinages, la politique même.
Oui.
Il y a des relations qui sont assez intéressantes avant. Et puis nous terminerons après sur ce qui se passe aujourd'hui et en particulier donc l'évolution avec les voisins. Voilà.
Oui. Alors, les relations entre les gens, c'est vrai que autant, si vous voulez, le commerce était quelque chose qui était détenu surtout par les Russes, mais il y avait aussi une migration de travail fort importante à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, vers Bakou. On parlait du pétrole tout à l'heure qui avait été la grande richesse de cette région d'Azerbaïdjan. Et donc, il y avait une migration considérable de gens qui venaient d'ailleurs surtout d'Azerbaïdjan, beaucoup plus que du Gilan. Mais c'était par centaines de milliers que les gens se rendaient saisonnièrement en Azerbaïdjan pour y travailler. Et puis, ils revenaient. Donc, c'était des migrations saisonnières, essentiellement, où ils étaient exploités en Azerbaïdjan de façon incroyable. Et en même temps, se trouvaient en Azerbaïdjan et à Bakou pas mal de mouvements révolutionnaires iraniens qui avaient trouvé là un ancrage particulier et qui ne pouvaient pas exercer leurs activités de la même façon en Iran. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que de 1915 à 1921, le Gilan, donc cette province du nord de l'Iran, a été le théâtre d'un mouvement révolutionnaire original, le mouvement de Djangali, le mouvement forestier. Vous savez, les révolutions ont été en général urbaines en Iran, et là, on avait un mouvement forestier, un mouvement rural, un mouvement campagnard.
Oui, c'est étonnant.
Étonnant, puisque c'est des phénomènes que l'on connaît, en effet, d'ailleurs, dans les régions boisées du monde, hein, au Vietnam, en Amérique du Sud, ou les frères forestiers dans les pays baltes, etc. Mais là, il y a eu ce mouvement qui était guidé par un guide particulièrement frappant, par sa morphologie, par ses habitudes, qui s'était laissé pousser les cheveux, un peu comme un Che Guevara avant l'heure, et qui s'appelait Mirza Kuchikhan, Mirza, donc le petit seigneur. D'ailleurs, c'est amusant, parce qu'aujourd'hui, on a enlevé le terme Khan au Gilan. Non, Khan, seigneur, dans la mesure où ça a une connotation féodale, et il ne faut surtout pas que ça ait cette connotation. Donc, on parle de Mirza Kuchik, maintenant. Mirza le petit. Et donc, il y a eu ce mouvement de 1915 à 1921 avec cet apport de révolutionnaires iraniens qui étaient stationnés à Bakou, et puis aussi, par la suite, lors de la révolution bolchévique, d'un certain nombre de bolcheviques qui sont venus pour essayer d'installer une république socialiste soviétique d'Iran en Iran même, ce qui a eu lieu d'ailleurs en 1920, et puis ensuite ça a été, si vous voulez, durci par un personnage auquel j'ai consacré pas mal de temps, qui est cette Lettonne, vous voyez, donc venant de Lettonie et étant passée par le Guilan quelques mois et ayant converti cette république socialiste en une république vraiment dure, avec son mari Aboukov, qui était lui aussi un militant extrémiste. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce courant qu'il y avait d'échanges entre les hommes à la fin du 19e et au début du 20e siècle, entre le Guilan et puis d'autre part ces terres azerbaïdjanaises et Bakou en particulier, qui étaient véritablement le siège d'un certain nombre de partis iraniens, et notamment du parti Adalat, du parti de la justice, qui est l'ancêtre du parti communiste iranien. Donc, il y a eu ces échanges, et puis ces échanges se sont complètement taris. Après, il y a eu le traité, d'une part, irano-soviétique en 1921, ce qui fait que, à partir de ce moment-là, chacun s'est mis à regarder du côté de son pays, et puis les échanges ont diminué considérablement, et les échanges de population également, avec des frontières fermées. Et puis, à partir des années 1930, véritablement, une césure quasi complète entre les deux espaces, avec pendant la dernière guerre un petit peu d'armes envoyées des bords de la Caspienne vers l'Union soviétique par les Anglais, donc qui étaient dans le sud de l'Iran, donc pour alimenter la résistance soviétique, mais rien en dehors de cela, si vous voulez, pas d'échange véritablement substantiel entre l'Iran et l'Union soviétique. Ce qui fait que les relations se sont coupées et les rives de la Caspienne sont devenues simplement des rives occupées par les gens assez fortunés de Téhéran pendant l'été, les rives de la Caspienne. Donc, alors, sous le régime du Shah, là, on voyait en effet des bikinis, mais depuis la révolution islamique, ces plages sont séparées entre hommes, femmes et familles, et donc il n'y a plus la même liberté. Mais reste le climat du monde caspien, qui est un climat assez frais, enfin relativement frais et humide, alors que à ce moment-là, dans la capitale iranienne, il fait terriblement chaud et sec. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont conservé une villa ou une maison d'agrément sur les bords de la Caspienne. Et cela a donné lieu d'ailleurs à plusieurs films qui nous relatent un petit peu les relations entre ces gens de la capitale une fois qu'ils ont émigré saisonnièrement vers les rives de la Caspienne.
Et ce mouvement touristique, en quelque sorte, est-ce qu'il est pris en charge par les habitants du Guilan ou pas?
Peu. Et par ailleurs, ils y voient une concurrence, si vous voulez, qui n'est pas facile à supporter, parce qu'il est évident que le prix de l'hectare ou du djiri, bon, pour parler localement, a augmenté terriblement dans des zones qui sont des zones de riziculture. Et donc, il est vrai qu'à partir de ce moment-là, bon, je ne parle pas uniquement des rives de la Caspienne, mais aussi des villages qui se trouvent à l'intérieur, il est évident que ça pose un problème de relation d'une part entre paysans et d'autre part urbains, et un problème aussi du prix du coût de la terre qui était jusque-là cultivée, et qui est accaparé par des citadins qui sont en mal d'évasion par rapport à la vie téhéranaise.
Et donc les habitants du Gilan n'ont pas trouvé là quelque chose de, qui aurait pu les rapprocher de la mer et rapprocher du reste de l'Iran.
Ils peuvent être, si vous voulez, des domestiques, etc. Ouais. Mais enfin, ça va pas bien loin.
Ouais. Ouais. Alors, on va faire une virgule musicale, cette fois-ci avec une dame de cette famille Yahyazadeh, qui s'appelle Ahmad, et qui a écrit et chanté une chanson qui s'appelle « La route de la soie ». Alors, et aujourd'hui, alors, comment ça...
Alors, aujourd'hui, donc, les rives de la Caspienne sont surtout des espaces touristiques, redoutés un petit peu par les autorités islamiques, dans la mesure où les gens viennent là pour échapper un peu aux contraintes qui existent dans les villes d'Iran. Et évidemment, il y a... des mises en garde qui sont faites et puis en même temps un contrôle assez vétilleux. Mais ça n'est pas véritablement le centre d'intérêt de l'Iran. Ce qui intéresse les Iraniens, c'est le Grand Iran. Le Grand Iran, c'est-à-dire ces régions notamment situées à l'est des frontières de l'Iran et au nord des frontières de l'Iran, qui étaient jadis parties de l'Empire iranien. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était lors d'un colloque il y a déjà quelques années, en 2006, qui avait été consacré à Nowruz, à la nouvelle année. Vous savez qu'en Iran, la nouvelle année commence à l'équinoxe de printemps. Donc on a affaire à une année solaire, et non pas, comme chez les musulmans, à une année lunaire. Ce qui fait qu'il y a là un gros problème pour le gouvernement islamique. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce Nowruz qui connote un passé arien? Iran, hein, c'est la terre des Ariens. Iran Vej, hein, c'est la terre des Ariens. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette cérémonie de Nowruz? Alors, ce qui m'avait frappé en 2006, c'est que cette année-là, les cérémonies chiites de commémoration de la mort du troisième imam, bon, excusez-moi d'être... Donc Ashura et puis Arbaïn tombaient en même temps que Nowruz. Donc Arbaïn, c'est-à-dire les 40 jours qui suivent Ashura, le massacre de l'imam Hossein, tombaient en même temps que Nowruz. Alors que faire ? Alors les autorités islamiques, moi j'avais été frappé de voir ça à Téhéran, avaient écrit « Nowruz Eman Baraye Hossein Ast »« Mon Nowruz est pour Hossein ». Donc, et c'est vrai que pendant les 10 années qui avaient suivi la révolution islamique, Nowruz avait été interdit, ou du moins très mal vu. Mais c'est vrai que pour les Iraniens, c'est quand même le début de l'année, et c'est ainsi qu'ils le célèbrent. Et alors, ce qui était frappant dans ce colloque de 2006, c'est que donc avaient été rameutés tous les gens qui célébraient Nowruz, et donc le Nowruzestan, ce que j'appelle le Nowruzestan, le pays de Nowruz. Et alors, évidemment, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans tous ces États qui ont procédé de la dislocation de l'URSS, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, etc., le Tadjikistan, Nowruz était interdit du temps de l'Union soviétique. Ce qui fait qu'une des premières choses qu'ont faites ces États lors de leur indépendance, ça a été de restaurer Nowruz. Et alors, il manquait évidemment, lors de ce colloque, un pays, qui était la Turquie. Alors la Turquie, évidemment, les Kurdes ont repris Nowruz. Nowruz était tombé dans l'oubli, mais vers les années 1910, les Kurdes, réclamant plus d'autonomie, se sont mis à revendiquer Nowruz et à célébrer Nowruz. Et puis en 1964, il y a eu à Diyarbakir ce suicide collectif des Kurdes le jour de Nowruz. Alors, et puis les Alevis célèbrent aussi Nowruz, les Alevis en Turquie. Alors quand vous avez comme ça une coutume qui tend à s'implanter, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes turc ? Soit vous dites... soit vous réprimez, soit vous dites « mais non, Nowruz, c'est nous ». Et alors, il y a eu en effet toute une série d'historiens et d'ethnologues turcs qui ont revendiqué la paternité de Nowruz en disant « mais non, c'est une vieille coutume turque, Nowruz ». Et donc, d'ailleurs, regardez au Kazakhstan où ils sont turcs d'origine, eh bien, oui. Il y a Nowruz, donc c'est pour ça... Ce qui fait qu'ils ont turquifié Nowruz. Et donc, il y a là, si vous voulez, quelque chose d'intéressant avec ce Nowruz, dans la mesure où c'est en effet une fête. Alors, parce que 10 ans après avoir réprimé Nowruz, les mollahs, voyant que c'était pas possible de la réprimer, ont dit, allons-y pour Nowruz. Et puis, il y a eu une floraison de colloques à ce moment-là et d'écrits sur Nowruz. Et donc, ça n'est plus apparu comme incompatible avec l'État islamique. Donc, vous voyez, c'est une histoire intéressante que cette histoire de Nowruz. Comment une coutume folklorique peut devenir un enjeu politique, en définitive.
Les pays riverains étaient concernés, là.
Les pays riverains étaient concernés, sauf la Russie, qui n'était pas venue. Mais c'est vrai que, la Russie n'est pas... un vieux pays de paternité iranienne. Et donc, à ce titre-là, la Russie n'était pas là. Mais il y avait l'Azerbaïdjan, et donc il y avait tout ce qui appartenait encore au début du 19e siècle à l'Iran et à l'Empire iranien.
Oui, sur lesquels la Russie sur lesquels, continue à avoir une certaine... un peu la main dessus.
La main dessus et... Donc, l'Azerbaïdjan a des relations très bonnes aussi avec les États-Unis. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors évidemment, on voit comment la Russie et l'Iran se rapprochent dans le cadre de la politique de M. Poutine, etc. Enfin bref, c'est lamentable. Que dire de plus ?
Oui, c'est vrai. Mais il faut dire quand même une chose, c'est que les Occidentaux, ils sont allés un peu fort et n'ont pas cherché le compromis.
Ah ben ça, c'est clair. Monsieur Trump, a été épouvantable avec l'Iran. Et donc, Là, véritablement, le meilleur moyen pour que l'Iran devienne une puissance nucléaire, c'est de faire comme M. Trump a fait, et qu'il y ait également des liens avec la Russie, c'est lié à ces bêtises qui ont été faites par M. Trump.
Exactement. Eh bien, Christian Bomberger, merci beaucoup de cet entretien. Voilà, on arrive au bout maintenant. Je rappelle en deux mots à nos auditeurs qui peuvent nous écouter, bien sûr, sur Radio Zenzine 88.1X et puis les autres fréquences. Allez voir sur le site de radiozenzinex.org. Nous avons également une page Facebook auquel vous pouvez vous abonner et qui vous donne donc des informations sur nos enregistrements, le passage des émissions, les diffusions et les rediffusions, et quelques autres informations, en particulier les livres qui sont publiés par nos invités. Quand ils nous font le savoir, eh bien, on en fait également la publicité. Voilà, on va terminer avec... on va quitter la famille Yahyazadeh pour une chanson qui s'appelle « Au bord de la mer Caspienne ». Merci à nos auditeurs, au revoir, à la prochaine. Zarin.